don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的
母亲南家都忙了。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clémence Alozard, Xavier Martinet, Hélène Paquet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Théo Gomard. Nous allons poursuivre ce matin notre série consacrée aux Panama Papers, cartographie d'un scandale. Plus de deux semaines après les premières révélations dites des Panama Papers, les 11 millions et demi d'emails, de courriers, de contrats, d'extraits de comptes bancaires qui ont fuité du cabinet Mossack Fonseca continuent de dévoiler leurs secrets. Hier, ce sont plusieurs donateurs des époux Clinton qui ont été pointés du doigt. Ils sont accusés d'avoir eu recours à des sociétés offshore, probablement pour échapper à l'impôt. Une révélation embarrassante pour la favorite des sondages à l'investiture démocrate qui condamnait il y a encore quelques jours le scandale des paradis fiscaux.
Some of you may have just heard about these disclosures about outrageous tax havens and loopholes.
Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ces révélations à propos du scandale des paradis fiscaux et de ces failles juridiques exploitées par les super-riches du monde entier. Certains de ces comportements sont clairement illégaux, et quiconque viole la loi, où qu'il soit, devra en rendre des comptes. Mais ce qui est également scandaleux, c'est tout ce qui en fait est légal. C'est pourquoi l'année dernière, j'ai proposé un plan pour fermer définitivement les soi-disant systèmes fiscaux privés pour les super-riches. Nous allons combattre tous ces arrangements, nous assurer que chacun paye le compte juste de ses impôts ici aux États-Unis. Je vais les obliger à rendre des comptes et nous allons faire un effort tout particulier pour récupérer ces ressources où qu'elles soient.
Les obliger à rendre des comptes, sachant que cette frontière entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas n'est pas toujours évidente. Hillary Clinton, qui donc il y a quelques jours dénonçait ce scandale des Panama Papers, et plus généralement ces failles juridiques exploitées par les super riches du monde entier, disait-elle. Les Panama Papers sont désignés tour à tour des footballeurs, des milliardaires, des chefs d'État en exercice, des célébrités, mais aussi des milliers d'anonymes. Parmi les 214 000 sociétés écrans, trusts ou fondations créées par Mossack Fonseca, eh bien certaines avaient pour but l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale. D'autres le blanchiment d'argent, issu de trafiquants toujours. Alors quels sont les réseaux dévoilés au grand jour par ces millions de documents inédits? Comment fonctionnent-ils? Que nous apprennent-ils aussi des États qu'ils pointent du doigt? Que nous disent-ils du système de corruption généralisé, par exemple du côté de la Russie ou encore du clan mafieux syrien rassemblé autour de Bachar al-Assad? On évoquera d'ailleurs ces deux pays avec Joseph Baou et Tania Rachmanova. Pour évoquer donc cette question ce matin, nous avons invité Éric Vernier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRSI, l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, c'est bien ça?
C'est ça.
Et puis vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur ce thème, notamment Fraude fiscale et paradis fiscaux, décrypter les pratiques pour mieux les combattre, qui était chez Duno, et puis techniques de blanchiment et moyens de lutte. Alors d'abord, peut-être un mot, Éric Vernier, sur l'actualité. Vous avez peut-être entendu hier le président panaméen Juan Carlos Varela, qui était en visite au Japon, qui en a profité pour affirmer son engagement. Il a dit qu'il allait coopérer avec l'OCDE, visiblement. Il veut éviter que son pays soit à nouveau inscrit sur la liste noire des paradis fiscaux. C'est un signe positif? Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Non, je crois que c'est quelque chose qui était prévisible. En fait, à chaque fois qu'il y a une affaire qui sort, il y a des promesses de fait. On se met plus ou moins d'accord entre les représentants des plus hautes instances. Et puis finalement, effectivement, le pays ne rentre pas dans la liste, ou s'il rentre, va en ressortir. Mais il faut quand même rappeler qu'il aurait dû toujours être sur toutes les listes. Et en fait, si on prend la liste française, il en est sorti en 2012, et toutes les listes officielles, le Panama en est sorti à un moment ou à un autre.
Il était rentré sur la liste en 2009 et puis à nouveau sorti en 2012. Et là, pour le coup, on le disait un peu hier, la France avait joué un rôle très important puisque la voix de la France pour sortir le Panama de cette liste avait été décisive.
Tout à fait. C'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que quelques pays vont faire pression pour sortir tel ou tel pays ami. Alors souvent suite à des accords plus ou moins officiels, suite à des négociations. Et finalement, que le Panama y rentre montrer ensuite qu'il donne des preuves de sa volonté, de sa bonne volonté, on voit quand même qu'il n'aurait jamais dû sortir des listes.
Comment on fait concrètement pour en sortir? Parce que là, le président panaméen a expliqué qu'il y avait une équipe technique de l'OCDE qui allait se rendre très bientôt dans les jours qui viennent à Panama pour trouver un accord. Concrètement, ça veut dire quoi? L'OCDE va faire un certain nombre de recommandations au Panama en matière de transparence, en matière de coopération, de transmission des informations. Comment ça se passe?
C'est assez simple. Finalement, il suffit essentiellement de passer des accords d'échange d'informations avec au moins 12 autres pays. Alors, on était passé à 16. Enfin, ce qui a fait que lorsque la liste de l'OCDE est sortie au milieu des années 2010, puisqu'on en a parlé justement en 2008 suite au sommet du G8, on se retrouvait avec une liste noire qui comportait 4 pays seulement, une liste grise avec quelques pays et tout le monde quasiment sur une liste blanche. Et les 4 pays qui étaient sur la liste noire en sont sortis au bout d'une semaine. Donc on s'aperçoit que finalement, en faisant quelques promesses, on se retrouve très vite sur la liste grise et comme la Chine, on était même sur la liste blanche.
Alors Éric Vernier, on a déjà beaucoup dit sur cette affaire. Tu disais plus de 11 millions de documents, plus de 500 établissements bancaires, pratiquement tous les pays qui sont concernés. Parmi les personnes possédant des sociétés offshore, on a des responsables politiques, je le disais, des chefs d'État même, des sportifs. Et puis on a aussi des profils beaucoup plus modestes. 15 jours après le début des révélations, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Pour quelqu'un qui travaille comme vous sur ce thème depuis très longtemps, qu'est-ce que cette affaire nous a finalement appris que nous ne savions déjà?
Pas grand-chose. On savait tout puisque le Panama, dans tous les ouvrages, y compris les miens, était pointé du doigt depuis très longtemps et n'avait jamais quitté notre radar. Les noms qui sont évoqués finalement ne surprennent pas grand monde, que ce soit dans le football, dans les médias, dans les affaires ou dans la politique. Et puis les montages de sociétés pour échapper essentiellement à l'impôt, mais pas seulement. C'est aussi pour échapper au radar de la police et de la justice. Ces montages sont décrits depuis toujours et nous n'avons ici finalement que des preuves supplémentaires de ce qui est connu depuis toujours.
On va parler de ces montages, mais il y a peut-être une chose moi qui me frappe, mais vous allez me dire peut-être que je suis naïf, Éric Vernier, c'est que il y a quand même derrière cette affaire-là un certain nombre d'individus, j'allais dire tout à fait ordinaires. Je disais, il y a des artisans, il y a des dentistes, il y a des chefs de PME qui finalement n'hésitent plus à utiliser des circuits financiers dont on pensait qu'ils étaient réservés à des grandes multinationales, à des réseaux criminels. Est-ce que ça veut dire que l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale s'est considérablement démocratisée? Et est-ce que si c'est le cas, depuis quand?
Alors, elle ne s'est pas forcément démocratisée, c'est surtout que les montages les plus sophistiqués sont maintenant ouverts à tous, même s'ils sont éloignés, grâce notamment à l'ouverture des frontières, grâce à la dématérialisation, Internet, etc. Et puis surtout, les conseillers de ces clients particuliers, de certaines banques d'affaires notamment, finalement, les ont orientés vers de nouvelles formes de montage, de sociétés ou d'optimisation fiscale. On va parler d'optimisation avant de parler du fond, puisque par exemple la Suisse devenait un petit peu plus risquée, le Luxembourg commençait à un petit peu orienter ses clients vers d'autres pays, et donc finalement on retrouve les anciens clients d'Andorre ou de la Suisse sur des pays comme le Panama ou les îles Caïmans.
Peut-être un tout petit mot, Éric Vernier, pour un peu s'y retrouver dans tout ça, parce que souvent on confond fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale, blanchiment. Est-ce qu'on peut établir quelques différences à la fois dans la nature et peut-être aussi dans la pratique, dans les réseaux utilisés? Est-ce que ce sont les mêmes ou pas?
Tout à fait. Alors, il y a effectivement de nombreuses confusions. L'optimisation fiscale, c'est le fait d'utiliser les circuits, les incitations officielles, légales, pour payer moins d'impôts et donc être plus rentable.
Avec l'intention donc de payer moins d'impôts.
Avec l'intention toujours de
payer moins d'impôts. La différence avec la fraude fiscale peut-être.
Voilà. Alors, l'optimisation fiscale peut amener à ne pas payer d'impôts dans certains cas, malgré tout. L'évasion fiscale, c'est faire en sorte d'utiliser au maximum ces outils, jusqu'à aller quasiment jusqu'à l'abus de droit. Donc c'est-à-dire on a des outils qui sont légaux, mais on va les utiliser de manière abusive. Là, on est dans l'évasion fiscale et on retrouve quand même au moins cela dans la plupart des cas évoqués dans cette affaire. Et puis on a au-dessus la fraude fiscale qui est tout simplement de cacher une partie de ses revenus pour ne pas payer d'impôts. Si on veut faire simple, voilà les trois définitions. Maintenant, c'est souvent le juge qui va qualifier d'optimisation, d'évasion ou de fraude fiscale parce que la frontière est quand même très ténue entre ces trois notions.
Et alors, dans ces trois catégories, est-ce qu'on a des ponts, des liens entre ces pratiques-là et l'argent sale?
Oui.
Ou est-ce que c'est des circuits tout à fait
Non, on retrouve absolument les mêmes circuits. Maintenant, ils ne sont pas utilisés forcément par les mêmes personnages ou de la même manière, mais on retrouve les mêmes circuits. Et le Panama en est, par contre, un exemple flagrant. C'est-à-dire que là, on retrouve aussi bien, comme vous l'avez dit, l'artisan local qui a un petit peu voulu cacher une partie de ses revenus, de son chiffre d'affaires, mais on retrouve aussi, et beaucoup, les narcotrafiquants ou des dictateurs de tel ou tel pays qui ont spolié leur peuple et qui sont corrompus. Donc on trouve absolument tout le monde sur les mêmes réseaux. Et donc, effectivement, il y a ce mélange des genres qui est un petit peu dangereux et qui, moi, me fait très peur depuis des années parce que, ce lien est de plus en plus fort, il me semble.
Oui, parce qu'on peut penser qu'il y a des différences parfaitement claires entre les activités, disons, légales, mais non déclarées, et les activités illégales. Mais en réalité, la frontière est extrêmement mince, comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, Éric Vernier, comme l'avait montré d'ailleurs une affaire qu'on avait connue ici en France en 2012, vous vous souvenez probablement, avec cet élu écologiste de la mairie de Paris qui s'était retrouvé finalement à couvrir sans le vouloir, en réalité, un trafic de drogue.
Complètement. C'était l'affaire Florence Lamblin qu'on a très vite oublié puisqu'il y avait à peu près une affaire tous les trois jours. Donc à chaque fois, la nouvelle affaire étouffait la précédente. Et cet élu, effectivement, qui récupérait l'argent que son grand-père avait mis en Suisse en 1920, en fait, par un procédé de compensation très très simple, récupérait non pas l'argent de son grand-père, mais l'argent de la drogue qui était vendue à Paris. Et en fait, l'argent de son grand-père, lui, partait chez les trafiquants à Londres ou au Maroc. Et donc là, on voit parfaitement le mélange des genres, avec d'un côté quelqu'un qui se dit « bon, je fais quelque chose de pas très chouette, surtout en tant qu'élu, puisque j'essaye d'échapper notamment à l'ISF ». Mais en fait, de l'autre côté, on voit des narcotrafiquants internationaux qui profitent de ce montage pour blanchir l'argent de la drogue.
C'est la raison pour laquelle on parle d'argent gris, ni blanc ni noir finalement.
Alors l'argent gris, c'est celui qui n'est pas criminel. Donc on va avoir la fraude fiscale, on va avoir une partie de la corruption, on va avoir en gros la délinquance financière, la délinquance en col blanc.
Alors au-delà des questions, Éric Vernier, purement éthiques et morales, cette lutte contre l'argent gris, disons, ça devrait être une priorité des États, parce que en fait l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, elle pourrait permettre de considérablement remplir les caisses de l'État. Vous dites que l'argent que recherche le gouvernement, il est là, c'est celui de la fraude fiscale.
Tout à fait. Si on prend l'exemple simple de la France, la fraude fiscale, c'est 60 à 80 milliards de pertes sèches par an. Donc on s'aperçoit que par rapport au budget de l'État, alors si je rajoute la fraude sociale, on arrive plutôt à 100 milliards. C'est quasiment la moitié.
C'est 375 milliards, je crois, pour 2015.
Oui, donc on arrive à un gros quart quand même, un tiers. Donc ça représente quand même une somme considérable. C'est vraiment ce qui nous manque finalement pour que le pays aille très très bien. Et d'ailleurs, les États ont commencé à lutter contre le blanchiment, notamment, parce que derrière, il y avait le blanchiment de fraude fiscale et on essayait de récupérer un peu d'argent. Sauf qu'on est très très loin du compte, même si on a récupéré un peu plus que les années précédentes cette année. Hein, on récupère plus de 20 milliards maintenant, mais 20 milliards à comparer à nos 80 milliards.
On a une idée des conséquences très concrètes pour les citoyens de cette évasion fiscale, de cette optimisation fiscale? On arrive à mesurer un peu les impacts? Je crois qu'il y a Alain Deneau qui avait écrit un livre justement sur les conséquences de tout ça du côté du Canada.
Qui vient de sortir au Canada, oui, tout à fait. C'est il faut quand même rappeler que la fiscalité permet de construire des hôpitaux, de payer des infirmières, de payer des profs, etc., etc. Alors effectivement, il y a tout un mouvement qui dit oui, on paye trop, mais en même temps qui veut un peu plus de services publics. Et là, effectivement, ce manque à gagner a un impact direct sur notamment les soins ou l'éducation nationale, pour ne prendre que ces exemples. Mais on a parlé très récemment, Monsieur Urvoas a parlé de l'état actuel de la justice en France. Effectivement, les 60 à 80 milliards seraient les bienvenus. Et là, on ne parle que de la France, mais pensons à tous ces pays où les dirigeants politiques prennent une grosse partie des revenus et des ressources du pays en spoliant le peuple, en étant corrompu ou en prenant une partie des revenus des sociétés du pays et qui cachent cet argent justement via ce type de montage par le Panama ou ailleurs. Et ça, c'est une des causes principales de la difficulté du développement humain et économique de certains pays, notamment d'Afrique ou d'Amérique du Sud.
On avait eu l'impression, Éric Vernier, lors de la crise de 2008, qu'on avait pris conscience de ces dérives de la finance mondiale et notamment de ces problèmes de pratiques d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale. On avait lancé un combat général, pensait-on, contre les paradis fiscaux. On avait même l'impression que les choses avançaient un petit peu quand on écoute un peu les différents experts sur cette question-là. Ces derniers mois, l'année dernière par exemple, on avait le sentiment qu'il y avait eu des progrès. Est-ce qu'on vous concédez, vous, qu'il y a eu des progrès, et si oui, lesquels ?
Alors, effectivement, vous avez raison de dire que l'année dernière, on entendait beaucoup de mes confrères et des représentants d'ONG spécialisés sur la question.
Je me rappelle de Pascal Saint-Amand notamment, qui...
Oui, qui est d'ailleurs toujours très positif. Il y a encore quelques jours, il disait que le Panama était l'un des seuls pays qui posait problème. Bon, ce qui nous a quand même surpris quelques-uns. Mais l'an dernier, effectivement, j'étais peut-être le dernier pessimiste. Et depuis, il y a eu quand même du changement, c'est-à-dire que quand on regarde les textes, effectivement, on se dit ça va mieux, puisqu'il y a des textes internationaux, des textes nationaux qui ont été votés et qui vont dans le bon sens. Mais quand on regarde sur le terrain, et c'est pour cela que moi je restais très sceptique, quand on regarde sur le terrain, peu de choses évoluent, et on s'aperçoit encore avec cette affaire, même si elle remonte à de nombreuses années, on s'aperçoit avec cette affaire qu'on est encore très très loin d'un changement quelconque. Et selon moi, on est au tout début de quelque chose et je ne suis pas sûr qu'on avance très vite.
Vous ne pensez pas que cette affaire-là aura des conséquences dans quelques mois, dans quelques années, on aura oublié tout ça et finalement l'immobilité, l'inaction va reprendre le dessus ?
On aura oublié, comme on a oublié LuxLeaks, WikiLeaks et d'autres. Il y a eu la liste du Liechtenstein dont on ne parle pas. Et je me souviens qu'à l'époque, on vient d'entendre Hillary Clinton. Mais à l'époque, Hillary Clinton était déjà dans les primaires contre Obama. Et Obama, comme Clinton, avait montré du doigt les paradis fiscaux européens en disant que c'était scandaleux que Monaco, Liechtenstein, le Luxembourg existent, que Jersey travaille comme il travaillait.
Pourtant, les États-Unis sont concernés le Delaware.
Et voilà, et pourtant, ils étaient concernés directement. Exactement, avec non seulement Delaware qui est le premier paradis fiscal au monde quasiment, et là on a l'impression qu'Obama vient de le découvrir, c'est dans tous les ouvrages depuis 20 ans, depuis 30 ans, le Delaware est un paradis fiscal depuis le 19e siècle, donc on le sait. Et de même que...
Et donc quand l'administration américaine, celle de l'actuel président Barack Obama, lance ce plan de lutte contre l'opacité des sociétés écrans, on ne peut rien en attendre, c'est il y a quelques jours que ça a été annoncé.
On ne peut pas en attendre grand-chose, puisque les lobbies américains, que ce soit dans l'armement, dans les affaires en général, sont très présents et n'ont aucun intérêt à ce que ça aille dans ce sens. Quand on regarde le programme, d'ailleurs, des Républicains, aucun ne souhaite plus de transparence.
Il y a quand même un texte qui est en préparation qui... pourrait obliger, en tout cas c'est le sens du texte, pourrait obliger les bénéficiaires d'une société offshore du Delaware à s'identifier auprès du fisc américain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Oui, alors regardons ce qui va advenir de ce texte une fois qu'il sera passé dans la moulinette des différentes instances, regardons comment il sera appliqué, et regardons surtout à partir de quel niveau on doit se déclarer, puisque ça ce sont des textes qui existent par ailleurs, notamment en France, mais très souvent on met un seuil qui peut être de 10 ou de 25% pour se déclarer. Donc finalement, si moi je reste en dessous du scope de 25%, je n'ai pas à déclarer mon nom.
Pourquoi les États-Unis, selon vous, ont été relativement épargnés dans cette affaire ? Précisément parce qu'ils ont les outils chez eux pour faire ce qu'ils pourraient faire du côté du Panama. Inutile d'aller jusque-là, on a le Delaware, donc ça va.
Non, mais il y a deux réponses. Il y a une première réponse qui est, ben oui, ils n'en ont pas besoin, et donc ils ont tout ce qu'il faut avec une législation qui est plus adaptée à ce qu'ils recherchent aux îles Caïmans, par exemple, ou même aux îles Vierges britanniques pour certains, ou aux Bermudes. La deuxième réponse, c'est quand même l'étonnement. Parce que si on remonte à 1977, ce qui est le cas dans cette affaire, hein, on a remonté tous les dossiers jusqu'à 1977, et là je suis quand même très étonné qu'on ne voit pas plus d'Américains si on remonte aussi loin. Si on était remonté à 5 ans, on peut tout à fait comprendre qu'il y ait peu d'Américains.
Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre étonnement? Il y a une hypothèse.
Il y a peut-être
proposez-la.
Il y a peut-être l'hypothèse qu'effectivement on a volontairement caché une partie des dossiers ou des noms pour le moment. Alors attendons, hein, puisqu'on doit avoir des révélations encore dans les jours qui viennent. Mais effectivement, on a l'impression que les Américains ont été fortement épargnés. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a quelques donateurs de Clinton qui viennent d'apparaître.
Est-ce qu'il ne faut pas établir, Eric Vernier, des différences entre les différents paradis fiscaux? On a une ONG qui s'appelle Tax Justice Network, qui est un réseau international de chercheurs et d'experts qui analyse le rôle des taxes, la régulation financière internationale, qui avait dressé un classement des différents paradis fiscaux, les 10 paradis fiscaux les plus nocifs, alors combinant à la fois l'opacité financière et puis le poids du dit paradis fiscal dans l'économie mondiale. Et donc on retrouvait, le classement donnait ça, 1 la Suisse, 2 Hong Kong, 3 États-Unis, 4 Singapour, 5 les îles Caïmans, 6 le Luxembourg, 7 le Liban, 8 l'Allemagne, 9 le Bahreïn et 10 Dubaï.
Oui, alors
que vous inspire ce classement?
Alors c'est un classement d'ailleurs que j'ai repris dans mon dernier ouvrage, fraude fiscale et paradis fiscaux, et j'ai repris d'ailleurs ce classement en évacuant le côté poids dans l'économie, parce que ce qui est important quand même, c'est l'opacité elle-même. Et effectivement, il y a des pays bien plus opaques que ceux qui sont cités. Alors si on trouve par exemple la Suisse dans les premiers, c'est parce qu'effectivement le poids financier est énorme.
On remarquera que Panama n'est pas dedans.
Le Panama n'est pas dedans. Alors souvent, il est mis derrière. Parce que il est opaque, mais la stabilité politique parfois ne permet pas vraiment de considérer ce pays comme quelque chose de très très intéressant pour planquer de l'argent. Donc c'est pour ces raisons que souvent il est mis plus loin dans la liste. Donc en fait, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est l'opacité pure, sans se préoccuper du reste. Et du coup, là, il y a de nombreux pays qui apparaissent et qui ne sont pas dans les 10 premiers. Et le Panama en fait partie.
On va s'intéresser dans quelques instants à la Syrie, mais il y a peut-être un élément que je voulais aborder avec vous, parce qu'il y a un paradis qu'on évoque plus rarement, qui est le paradis patrimonial, que vous évoquez dans votre ouvrage. Il y a tout un chapitre consacré au paradis patrimonial. Alors, pour ne rien vous cacher, moi j'ai appris ça. Alors, c'est vrai, j'avais entendu la formule une fois ou deux, mais je n'avais pas idée de l'importance, de l'ampleur de ce phénomène-là. Vous pouvez nous en parler? Parce qu'on est concernés, nous, en France en particulier,
tout à fait,
avec la question du Qatar.
Tout à fait, parce que j'aime bien dire que le paradis, c'est souvent pour les autres. Pour les habitants, pour les résidents, c'est souvent un enfer. Et d'ailleurs, le Panama n'est absolument pas un paradis pour les Panaméens, qui sont pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté, comme dans de nombreux paradis fiscaux d'ailleurs. Effectivement, le paradis patrimonial est un paradis fiscal, mais lié aux avoirs, c'est-à-dire au patrimoine. Et la France est en quelque sorte un paradis fiscal, en tout cas patrimonial, puisque effectivement, des accords, notamment avec le Qatar, permettent aux Qataris d'investir dans l'immobilier en France et de ne pas payer de plus-value, d'impôts sur les plus-values lorsqu'ils revendent ce patrimoine. Donc effectivement, pour un Qatari, la France est un paradis fiscal patrimonial.
Et alors pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur la liste de l'OCDE?
On devrait peut-être, mais c'est effectivement... Ça n'est peut-être pas assez répandu et ça ne concerne peut-être qu'une trop faible frange de la population mondiale pour que nous soyons considérés comme un paradis fiscal.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine autour de l'affaire dite des Panama Papers, cartographie d'un scandale aujourd'hui chez Mossack Fonseca. Tous les fonds sont gris, c'est le titre de notre émission ce matin. On est avec Éric Vernier, le directeur de l'IRSI, l'Institut de la responsabilité sociétale par l'innovation, auteur notamment de cet ouvrage « Fraude fiscale et paradis fiscaux » sous-titré « Décrypter les pratiques pour mieux les combattre » qui était paru chez Dunod, que je conseille vraiment aux éditeurs parce que ça permet vraiment de mieux comprendre tous ces mécanismes. On va prendre la direction de la Syrie où le cousin de Bachar al-Assad apparaît justement dans cette affaire des Panama Papers. Cette voix que vous entendez, c'est celle de Rami Maklouf. Conférence de presse donc, dans laquelle Rami Maklouf, le cousin de Bachar al-Assad, annonce qu'il va dissoudre ses sociétés pour les transformer en institutions caritatives. Effectivement, toutes ces sociétés continuent de fonctionner, bien sûr, et de prospérer, et notamment Syriatel, qui est l'un des opérateurs de téléphonie mobile. On va retrouver Joseph Baou, qui est à New York et chercheur au Centre de recherche Carnegie sur le Moyen-Orient à Washington, ancien professeur à Sciences Po. Alors, Joseph Baou, Rami Maklouf, cousin donc par la mère de Bachar, on dit de lui qu'il est l'un des hommes les plus riches du pays, peut-être même l'homme le plus riche du pays. Sa fortune était évaluée avant la guerre à plus de 5 milliards de dollars. Alors c'est pas très étonnant de le voir apparaître dans les opérations d'évasion fiscale comme beaucoup de personnes très riches. Mais par contre, ce que ça fait apparaître qui est très étonnant, c'est les mécanismes par lesquels le régime contourne les sanctions internationales et donc interroge leur efficacité même.
Ce qui est en cause ici, c'est d'abord deux choses. C'est d'une part les questions endémiques de corruption de régimes comme celui de la Syrie. Et à travers le cas de la Syrie, je crois qu'on peut aborder beaucoup de cas similaires dans la région et ailleurs. Mais aussi, comme vous le dites, c'est un tout petit peu la vanité des sanctions et leur côté, même je dirais, un peu injuste, puisque au fond, ce qu'elles frappent le plus et le plus directement, ce sont les Syriens, entre guillemets, normaux, qui aujourd'hui ont du mal à ouvrir des comptes à l'étranger, alors que les caciques du régime, eux, ont des moyens infinis de contournement de ces sanctions. Alors ces moyens, qu'est-ce qu'ils sont? Tout d'abord, il y a le voisin immédiat. Il ne faut pas oublier que le Liban est un pays qui a un secret bancaire extrêmement solide. Et ça, c'est une énorme source de contournement des sanctions. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que si on pouvait examiner les dépôts libanais, on trouverait beaucoup d'argent qui appartient à la nomenclature syrienne. La deuxième piste, c'est la piste est-européenne, russe, biélorusse et autres. C'est-à-dire que le père de Rami Maklouf, dont vous venez d'évoquer le nom, est lui installé à Moscou depuis des années, depuis que la crise et la guerre ensuite a commencé, et c'est un peu le grand argentier, le grand opérateur et le grand fournisseur, le grand acheteur d'armes russes et est-européennes pour le régime syrien. Donc en fait, c'est une famille tentaculaire. Alors ça, c'est peut-être le troisième point, si vous voulez, qu'on peut évoquer, c'est que les Panama Papers ont mis à jour quelque chose qui était un secret polichinel, c'est-à-dire la personnalité de Rami Maklouf, vous l'avez dit, qui est surnommé en Syrie Monsieur 25%, qui en fait possède la plupart des entreprises juteuses du pays, à commencer par les télécoms, Syriatel et d'autres compagnies. Aucun homme d'affaires en Syrie ne peut grandir vraiment sans associer Rami Maklouf à ces affaires-là et à ces entreprises. Mais derrière Rami Maklouf, il y a toute une myriade d'hommes d'affaires et de, je dirais, une énorme mafia, au fond, qui prospère à l'ombre de ce régime. Il y a les frères de la première dame, les frères de Hassan al-Assad, qui eux sont installés à Londres, son père aussi, qui est cardiologue, mais qui fait aussi des affaires. Et donc, en fait, c'est un système qui est très vieux. Il perdure depuis les années 70, à savoir que les officiers à la huit du régime, les grands caciques, les grands barons du régime, ont en fait tout un réseau d'hommes d'affaires qui s'occupent de leurs investissements et qui sont au fond uniquement des façades qui leur permettent de contourner les sanctions.
Et ce système, c'est pas seulement Rami Maklouf, c'est tout un système avec plusieurs personnalités, notamment, vous le disiez, effectivement, le clan de l'épouse de Bachar al-Assad, Asma, qui est aussi dans ce dispositif-là. Vous parliez du Liban, qui pourrait bien être placé sur la liste des paradis fiscaux de l'OCDE, vous avez parlé de la Biélorussie, vous avez parlé de Dubaï. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut comprendre que, finalement, cette affaire des Panama Papers, concernant justement les activités syriennes, finalement, c'est assez dérisoire, ce qui s'est passé du côté de Panama par rapport aux autres voies utilisées par le régime. Et là encore, je pense au Liban, je pense à Dubaï, je pense à la Biélorussie, la Russie. C'était dérisoire?
Dérisoire dans la mesure où les sommes sont assez minimes, c'est-à-dire c'est vraiment la partie très 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 émergée de l'iceberg. si le régime syrien, le clan Assad Makhlouf, n'a siphonné qu'un milliard point deux de dollars de toute cette affaire, ce serait vraiment à la fois décevant et rassurant. Ça veut dire qu'au fond, c'est des petits joueurs. Mais en même temps, donc il y a aussi à ajouter toutes les autres combines, peut-être d'autres banques au Panama. Il ne faut pas oublier que les Panama Papers concernent uniquement un bureau d'avocat, qui est Mossack Fonseca, donc un seul bureau d'avocat. Il y a probablement beaucoup d'autres bureaux qui font la même chose au Panama. Il y a aussi d'autres destinations. Mais aussi, ce que les Panama Papers, là où ils sont un tout petit peu, je dirais, relatifs, je ne dirais pas risibles, parce qu'en fait, c'est important quand même, c'est qu'aussi, ils ne révèlent qu'une partie des financements et des contournements internationaux de sanctions. On peut dire la même chose de la Russie, de Poutine, aussi, le chiffre est minime.
Et puis, par ailleurs, là, vous avez raison, Joseph Baou, c'est que, effectivement, on a appris à travers cette affaire-là, et via donc les documents qui ont été extraits de ce cabinet Mossack Fonseca, qu'il y a, par exemple, l'une des entreprises syriennes dont il est question, qui est spécialisée dans les produits pétroliers raffinés, en l'occurrence Panguet, mais en réalité, on savait très bien que le régime faisait du business avec le pétrole qui, par ailleurs, était exploité par l'organisation de l'État islamique. Donc ça, c'est pas un secret.
Exactement. Donc en fait, les Panama Papers sont importants dans la mesure où ils sont un révélateur, peut-être le détonateur de quelque chose de plus grand, mais les prendre pour eux-mêmes comme une preuve définitive absolue de ce qui se passe, c'est quand même quelque chose d'assez limité. Et en même temps, ça met en lumière le fait que, au fond, le système financier international est aussi construit un tout petit peu pour ça. C'est-à-dire que on lui laisse des marges de manœuvre, on lui laisse des marges de respiration, parce que tout le monde, même les États, entre guillemets, amis, je dirais, ont besoin de moyens de contournement, de moyens de paiement parfois clandestins pour des opérations couvertes, pour des opérations de services, etc. Et donc, en fait, que les Panama Papers révèlent, c'est quand même un pan entier de l'architecture financière internationale.
Peut-être deux dernières questions, Joseph Baou. La première, sur le fait que, précisément, si on se rend compte qu'il y a ces activités dans ces sociétés offshore montées du côté du Panama, mais pas seulement, évidemment, avec toutes ces activités via les banques biélorusses, libanaises, les banques de Dubaï, etc. Est-ce que ça veut dire que, finalement, il est impossible aujourd'hui de mettre à mal le dispositif économique et financier du régime ?
Non, je crois qu'on peut le mettre à mal.
Comment ?
D'autres façons. C'est-à-dire, d'abord, il y a des moyens de contrôler les dépenses militaires de ce régime. Il ne faut pas oublier que la Russie continue aujourd'hui, malgré l'adoption de sanctions de résolutions internationales à l'ONU sous le chapitre 7, à l'unanimité, de livrer des armes au régime, de rafistoler, enfin de réparer tout l'outillage militaire du régime, d'envoyer des conseillers auprès du régime. On peut dire la même chose de l'Iran. Et ce genre de choses, par exemple, peut être renforcé, peut être contrôlé. Et c'est un moyen, petit à petit, dans le gradualisme, parce qu'il n'y aura pas de moyen définitif d'arrêter ces choses-là, sauf à annuler les paradis fiscaux, en fait, les interdire totalement, ce qui n'est pas prêt d'arriver.
Ouais.
Et donc, non pas seulement pour des raisons éthiques ou pour des raisons légales, mais aussi parce que le système international légal en a besoin parfois pour passer certaines opérations.
Toute dernière question, Joseph Baou. Quand Rami Makhlouf, justement pour revenir à lui, avait tenté de récupérer les biens séquestrés par l'Union européenne, il avait affirmé qu'il n'avait plus de lien avec le régime. Il avait même expliqué qu'il allait désormais arrêter les affaires et se consacrer au projet caritatif. Je le cite. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ses liens avec le régime, de ses rapports actuels avec son cousin, Bachar al-Assad ?
Rami Makhlouf est aujourd'hui, alors lui, la structure, son père, ce sont au fond les vrais parrains du régime, c'est-à-dire cette famille est construite un tout petit peu comme une sorte de Cosa Nostra dans laquelle Bachar tient la façade politique, Maher el-Assad joue le rôle de la façade militaire, et le clan Makhlouf tient à la fois l'ensemble des affaires financières, mais aussi peut-être quelque part le cœur de la décision politique, c'est-à-dire que Mohamed Makhlouf, c'est le parrain du régime, le vieil homme qui donne les conseils aux neveux, qui lui assure les liens avec les Russes, qui assure la continuité avec l'ancien régime du père Assad, c'est quand même une famille très importante. Alors de temps en temps, le régime annonce qu'il a demandé à un thème de se mettre à l'écart parce qu'il était devenu trop infréquentable ou trop sale aux yeux de l'opinion internationale. Mais ce sont en fait des trompe-l'œil qui, à l'intérieur de la Syrie, ne trompent personne.
Merci beaucoup, en tout cas, Joseph Baou, d'avoir été avec nous depuis New York. Je rappelle, chercheur au Centre de recherche Carnegie sur le Moyen-Orient à Washington, ancien professeur à Sciences Po. Réaction, Éric Vernier, au propos que vous venez d'entendre.
Il y aurait énormément de choses à dire, mais la première, c'est que je suis en accord total avec ce qui a été dit. On retrouve effectivement des concepts et des montages que l'on retrouve partout au Moyen-Orient, en Afrique et notamment en Afrique du Nord, où effectivement on est confronté à ce qu'on peut appeler des mafias d'État ou des mafias étatiques, c'est-à-dire des proches des dirigeants qui vont organiser tous les montages de corruption et de déplacement de fonds vers l'extérieur et notamment vers les paradis fiscaux. Alors, il a été évoqué d'ailleurs des pays qui ne sont jamais montrés du doigt, Dubaï notamment. Je voudrais quand même rappeler que Dubaï organise chaque année le sommet mondial de la lutte anti-blanchiment. Donc on est vraiment dans...
C'est cocasse.
Voilà, on est dans quelque chose qui est proche de l'hypocrisie ou même de la moquerie totale des principes de base élémentaires. Et là, effectivement, avec ce qui a été évoqué sur la Syrie, je crois nous avons besoin aussi d'ajouter que si on retrouve l'argent de la drogue proche de l'argent de l'artisan qui met un peu de côté, proche du dirigeant politique, on trouve aussi l'argent du financement du terrorisme dans les mêmes montages. Et donc, effectivement, lutter contre ce type de montages internationaux, c'est lutter contre des choses bien plus graves que les quelques milliers d'euros mis de côté.
C'est ça qui est étonnant, justement, on s'était dit, et c'était d'ailleurs, si vous vous souvenez de la riposte américaine au lendemain du 11 septembre, la première réponse, ça a été d'abord une réponse sur le plan de la lutte économique et financière.
Oui.
Il y a eu des lois qui sont passées avant même qu'on envisage quoi que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan militaire. C'était la première réponse. Donc on pourrait penser que précisément parce qu'il y a cette menace terroriste, les États ont une volonté réelle, affirmée, de lutter justement contre ces réseaux, de ces fameux montages de corruption, de ces régimes autoritaires qui, on le sait, génèrent aussi cette menace terroriste dont on parle.
Effectivement, tous les textes de lutte contre le blanchiment sont maintenant liés à la lutte contre le financement du terrorisme. Tout est lié et les textes ont été mis en place. Quand on regarde de plus près, si on prend l'exemple des États-Unis, on s'aperçoit que les textes ont permis de mettre en place des procédures exceptionnelles justement pour lutter soi-disant contre le financement du terrorisme ou le blanchiment, et que ces outils exceptionnels ou ces procédures exceptionnelles sont surtout utilisés pour se débarrasser, par exemple, d'entreprises étrangères qui concurrenceraient un peu trop les entreprises américaines. Donc finalement, on met en place, on déclare beaucoup de choses et on arrive
et on
le glaive,
pas.
Mais on n'applique pas réellement.
C'est illustré quand même, pardon de vous couper, je vous laisse reprendre juste derrière, mais c'est illustré par quelque chose qui est absolument incroyable. On parlait à l'instant du Liban, qui n'est pas sur la liste des paradis fiscaux, qui pourrait le devenir, en tout cas il est menacé, alors même qu'il répond aux trois critères qui sont demandés par l'OCDE pour évaluer la qualité de la coopération fiscale internationale, c'est-à-dire d'abord la question de l'échange à la demande, la convention multilatérale et puis l'échange automatique de données. Le Liban ne répond à aucun de ces trois critères et pourtant n'est pas sur la liste noire. Il y a quelque chose d'absolument incroyable.
Dans cette région, de nombreux pays sont dans ce cas. Mais pour revenir à ce que je disais sur les déclarations au lendemain de grandes affaires ou de grands événements, lorsque Ben Ali est tombé, immédiatement Tracfin, donc l'organisme anti-blanchiment français, a dit on gèle les avoirs de Ben Ali, comme si on découvrait justement, une fois qu'il n'était plus là, qu'on découvrait tout ce qu'il avait fait depuis 30 ans. Là on voit effectivement énormément d'hypocrisie, et comme l'a dit la personne aux États-Unis, c'est effectivement un système international qui profite à beaucoup de gens, y compris dans la légalité.
Vous parlez d'hypocrisie, puis ensuite on se dirigera du côté de la Russie. Justement, il y a une dizaine de jours, donc après les révélations dont on parle cette semaine sur les sociétés offshore dans les paradis fiscaux, le Parlement européen a fait voter une loi sur la protection du secret des affaires. C'est un texte qui contraint désormais les États membres à prendre des dispositions dans les 2 ans pour traduire justement la directive et instaurer des amendes pour ceux qui enfreignent le secret des affaires. Dans le cas des Panama Papers, eh bien, la divulgation de ces informations serait tombée sous le coup de la loi si les journalistes n'avaient pas prouvé, en tout cas, pour chacun des cas avancés, que la création de ces sociétés offshore, à la fin, s'accompagnait d'un acte de dissimulation au fisc du pays.
Alors, je ne sais pas ce qu'on aurait fait avec l'affaire du Panama, mais effectivement, c'est un véritable risque. Mais ce dont on est conscient par rapport à ce texte, aujourd'hui, c'est de se dire que d'un côté, on va voter ce texte, de l'autre côté, on veut soi-disant protéger les lanceurs d'alerte. En tout cas, on le dit, parce que pour le moment, on s'aperçoit que les lanceurs d'alerte sont plutôt en difficulté, y compris Antoine Deltour. Donc, on s'aperçoit encore une fois qu'il y a des textes qui tombent, mais qu'il y a plein d'autres choses qui font que ces textes qui vont dans le bon sens vont être contrés par d'autres actes ou d'autres textes. Donc, encore une fois, je crois qu'on ne va vraiment pas dans le bon sens et que si on est au début de quelque chose, on est au tout début.
On va se tourner du côté de la Russie. Jeudi dernier, le président russe réalisait son exercice de communication favori, son show télévisé annuel, Ligne Directe, l'occasion pour lui de revenir sur les calomnies des médias occidentaux et notamment sur la fameuse affaire des Panama Papers et toutes les accusations incriminant son cercle rapproché, notamment son ami le violoncelliste Sergueï Roldouïguin, accusé d'être au cœur d'un système de montage financier illégal.
Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний.
C'est un actionnaire mineur dans l'une de nos entreprises et il gagne un peu d'argent avec cela. Mais bien sûr, ce ne sont pas des milliards de dollars, c'est absurde. Je suis fier des gens comme Sergueï Roldouïguin, à la fois en tant qu'ami et en général. Presque tout l'argent qu'il a gagné dans l'entreprise, il l'a dépensé en achetant des instruments qu'il a rapportés en Russie. Ce sont des objets coûteux, nous accueillons toujours avec plaisir ce genre d'initiative. Mais il va encore plus loin, je sais que ces derniers mois, il s'est lancé dans une paperasserie dans le but de donner gracieusement ses instruments de musique à des institutions d'État. Plus on aura de gens comme lui, mieux ce sera. Et je suis fier d'avoir de tels amis.
Voilà, donc Vladimir Poutine, la semaine dernière, qui s'expliquait autour de cette affaire. On va accueillir une nouvelle invitée, c'est Tania Rakhmanova. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisatrice et puis auteur notamment de ce livre « Au cœur du pouvoir russe » qui était paru à la découverte en 2014. Vous revenez tout juste de Russie, donc ça tombe bien. Vous avez pu voir le président russe s'expliquer justement sur les Panama Papers en direct jeudi dernier. Alors, cette thèse du complot ourdi depuis l'extérieur a été évoquée par Poutine. Par ailleurs, il a expliqué que le journal allemand à l'origine de l'enquête, était détenue par une holding elle-même détenue par le fonds américain Goldman Sachs, ce qui, en fait, en tout cas, à en croire un communiqué qui s'en est suivi quelques minutes plus tard par le journal lui-même est totalement faux. Mais cette riposte de Poutine, elle révèle cette défense très classique du Kremlin, c'est-à-dire on accuse les perturbateurs extérieurs.
Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est exactement ça, c'est que on a converti cette affaire, on a retourné cette affaire pour dire que ce n'est pas une investigation indépendante, que c'est une commande des forces extérieures, parce qu'aujourd'hui la Russie se trouve en guerre, encerclée par des ennemis. D'ailleurs, une partie des questions lors de cette ligne directe avec Poutine, enfin la rencontre, portait sur cette question, comment on vit encerclée par des ennemis. Et donc, du coup, il a complètement changé l'axe de la discussion. Maintenant, c'est l'Amérique qui a commandé cette enquête pour nuire, pour déstabiliser la Russie et elle n'a pas réussi.
Qu'est-ce qu'on pense en Russie de cette affaire-là, Tania Rakhmanova, à peu près comme le président, à savoir qu'effectivement, c'est une opération menée depuis l'extérieur, depuis les États-Unis en l'occurrence, destinée à déstabiliser Poutine avant les élections législatives de septembre?
J'ai bien peur qu'une grande partie de la population le pense vraiment et accepte cette version présentée par les médias, notamment la télévision. Parce qu'en Russie, la média principale, c'est la télévision. Après, bien sûr, il y a une opposition, les gens qui critiquent le pouvoir, qui n'y croient pas du tout. Mais ils sont plutôt en minorité aujourd'hui.
Et justement, vous dites les médias en Russie, c'est la télévision. Vous nous racontez un peu comment les médias ont, j'allais dire, préparé la sortie de cette affaire-là.
Ah oui, c'était toute une opération parce que, en fait, une semaine avant, donc à la fin du mois de mars, le secrétaire d'État américain John Kerry était à Moscou. Il est arrivé avec une petite mallette à la main qu'il lâchait pas. Donc, il a eu des rumeurs comme ça à Moscou qu'il a apporté des documents compromettants. Comme par hasard, au même moment, la télévision russe, la chaîne la plus agressive, moi je disais, et sans scrupule, elle a fait plusieurs sujets, notamment en documentaire, qui dénonçaient l'opposition d'une manière mais inacceptable, en fait, dans... C'est pas pour vous, mais c'est inacceptable. Et on disait, voilà, on se prépare pour se défendre contre une attaque des ennemis. Et donc, dimanche, le 3 avril, dès le matin, on a dit qu'il y aura des nouvelles. Et donc, le soir, on a reçu, ça a été publié en russe, les révélations. Et tout de suite, on a réagi en disant « Non, c'est une attaque américaine. De toute façon, il n'y a rien directement contre Poutine. »
Alors, justement, il n'y a rien directement contre Poutine. Quand même, dans ces documents de Mossack Fonseca, l'argent accumulé entre 2009 et 2012 sur le compte de la société Sandalwood Continental, détenue par l'ami de Poutine, justement, Roald Dougin, atteint 2 milliards de dollars. Ce qui a poussé, d'ailleurs, le journaliste indépendant Sergueï Parkomenko à estimer, dans un billet c'est amusant que ça voulait dire que le musicien s'était offert l'équivalent de 300 Stradivarius, si on considère qu'un Stradivarius vaut à peu près 6 millions de dollars, sachant qu'on a, je crois, 600, enfin en tout cas recensé 600 Stradivarius dans le monde, ça veut dire qu'il aurait acheté la moitié des Stradivarius. En même temps, est-ce qu'on peut conclure, Tania Rakhmanova, que les activités de cette société sont totalement illégales et de façon plus générale, qu'est-ce qu'on sait du rôle avéré ou supposé de Roald Dougin dans les affaires ? Et quel lien avec Poutine ?
Voilà, on connaît les liens avec Poutine, qui c'est son ami depuis sa jeunesse, il était le parent d'une des filles de Poutine, il est violoncelliste, ça on sait très bien, mais sur ses affaires, on n'en sait rien. D'ailleurs, il y a eu quelques commentateurs qui disaient que peut-être lui-même, il n'en sait rien. Parce que, voilà, il s'est jamais comporté que quelqu'un comme un homme d'affaires. Oui, il a acheté quelques instruments pour la Russie, pour les écoles musicales, mais ça c'est... Poutine lui-même dit que c'est 12 millions, ce qui est quand même rien par rapport... 12 millions de dollars, mais c'est rien par rapport à 2 milliards. Donc, on ne sait rien. J'espère qu'il y aura quelques investigations un peu plus sérieuses, on en saura plus.
Vous y croyez, du côté de la Russie, vous pensez qu'on peut envisager
que... Non, c'est que des journalistes indépendants, par exemple Parkomenko, mais c'est un très bon journaliste, mais le problème est que c'est tellement opaque le système autour de Poutine, le système est tellement opaque, il y a tellement l'absence totale d'informations que c'est très difficile.
D'ailleurs, vous parlez de système Poutine, vous ne parlez pas d'oligarchie.
Non, pas vraiment. Si vous voulez, la définition classique de l'oligarchie, quand il y a plusieurs personnes qui se partagent le pouvoir, on peut dire que c'est le cas, mais c'est très différent. Enfin, c'est assez différent par rapport à l'époque de Yeltsin, quand ce terme est apparu. Parce qu'à l'époque, les oligarques proches de Yeltsin, c'était des gens très riches et très puissants, sans serait-ce que parce qu'ils se partageaient entre eux les chaînes de télévision. Qui joue un rôle très important en Russie, dans la vie politique de la Russie. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas.
Éric Vernier, réaction sur ce cas russe, qu'est-ce qui vous semble révélé ?
On retrouve un petit peu ce qu'on trouve souvent avec certains Russes ou certains Chinois, c'est-à-dire que là, on n'est pas forcément dans une affaire de blanchiment direct, c'est plutôt un placement pour les vieux jours, au cas où notamment il y a des renversements de pouvoir ou des évolutions dans le pays, et avoir de l'argent un petit peu partout sur le globe permet de survivre, et même de très bien survivre lorsqu'il y a ce type de problème. Et je crois qu'on est, dans ce cas-là, on est plus proche de cette vision que d'une vision de fraude fiscale ou de blanchiment d'argent, plutôt d'un placement pour ces vieux jours.
Après, il ne faudrait pas penser que c'est de l'argent qui dort. En l'occurrence, dans le cas de Roald Dougin, il serait donc bénéficiaire d'une société, de deux sociétés, en l'occurrence panaméennes, par lesquelles ont pu passer des millions de roubles, parfois quotidiennement, notamment qui venaient de proches hommes d'affaires du cercle, disons, de Poutine, et de l'argent qui ensuite a été réinvesti, par exemple, dans des transactions comme des actifs stratégiques, dans des usines de camions, de voitures, etc. Donc c'est pas de l'argent qui dort, hein, c'est de l'argent qui est réinjecté, réinjecté dans le système.
Toujours, pas, effectivement, il ne dort pas toujours. C'est pas simplement effectivement un avoir comme ça dans un coin, mais en tout cas il est là et il pourra servir plus tard. Mais effectivement, cet argent peut servir, par exemple, à acheter un vignoble dans le Bordelais ou une PME française. Ça peut aller jusque là. Hein. Ça n'est pas simplement, il ne faut pas voir cela comme des affaires internationales financières et un petit peu éthérées. On est dans du concret très souvent, et notamment les Russes, lorsqu'ils investissent, aiment bien le concret. Ils commencent souvent par la pierre, d'ailleurs, lorsqu'ils investissent. Et là, on retrouve effectivement des montages assez, assez classiques à ce niveau-là. Like they'd always told me not to. Saw the one dimension polka dot pacifier and all the illusions shatter. Money's only paper. Merci beaucoup en tout cas à Tania Rakhmanova qui était avec nous par téléphone, journaliste, réalisatrice. Je vais rappeler, elle a fait plusieurs documentaires, mais je rappellerai celui-ci, La prise du pouvoir par Vladimir Poutine, et également ce livre, Au cœur du pouvoir russe, enquête sur l'empire Poutine, qui était paru à La Découverte. Et un grand merci à vous, Éric Vernier, de nous avoir accompagné ce matin. Je rappellerai vous concernant deux ouvrages, Technique de blanchiment et Moyens de lutte. C'est la troisième édition déjà, j'ai du nom. C'est déjà la troisième, bientôt la quatrième.
C'est ce que j'allais vous dire.
Dans quelques mois.
Et puis alors. Fraude fiscale et paradis fiscaux, décrypter les pratiques pour mieux les combattre, également chez Dunod.
Merci.
Dans un instant sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Brouet. Mais juste avant, comme chaque jour, c'est La Vie Moderne. Très belle journée et à demain. Money's only paper.